Vous écoutez, on lit pour vous.
La revue BMJ se distancie d'une étude liée en mortalité et non dépistage du cancer du sein. Un texte de l'agence France-Presse paru le 25 novembre 2025 dans Le Devoir. La revue médicale BMJ, anciennement British Medical Journal, a pris, fin novembre 2025, ses distances avec une étude qu'elle avait publiée 2 mois plus tôt, selon laquelle les femmes qui ne se rendent pas à leur premier dépistage du cancer du sein auraient un risque nettement accru d'en mourir. Les auteurs de cette étude, publiée fin septembre 2025 par le BMJ, affirmaient que leurs travaux plaidaient en faveur de mesures plus volontaristes pour inciter les femmes à participer au programme de dépistage du cancer du sein. Or, les données analysées dans cette étude ne sont pas assez probantes pour justifier un tel appel, prévient le BMJ dans un communiqué. La revue médicale britannique a publié une « expression of concern ». Ce terme, littéralement « avis de préoccupation », signifie qu'elle se distancie de l'étude sans aller pour l'heure jusqu'à la retirer. Cette position s'applique également à un commentaire qui avait été publié dans la même édition du BMJ. Ces auteurs n'avaient pas participé à l'étude, mais appelaient également à agir en faveur d'une meilleure adhésion au dépistage. L'enjeu des causes réelles de décès. L'étude en question avait été réalisée à partir des vastes données du programme suédois de dépistage par mammographie sur un effectif de près d'un demi-million de femmes invitées à se faire dépister de 1991 à 2020, à l'âge de 50 ans ou, à partir de 2005, de 40 ans. Les auteurs concluaient que les patientes ne s'étant pas rendues à leur première mammographie, environ un tiers d'entre elles, avaient plus de risques de mourir d'un cancer du sein dans les 25 ans qui suivent. L'étude y voyait la conséquence probable d'un retard de détection, estimant que le risque était près de moitié, plus 40%, plus élevé chez les femmes qui ratent leur premier rendez-vous. Mais le BMJ estime finalement que les auteurs ne fournissaient pas assez de données sur les causes réelles des décès. Selon la revue, il pourrait donc être fallacieux d'avancer que ces morts auraient pu être évitées grâce à une meilleure adhésion au dépistage. Cela suppose non seulement un lien de cause à effet, mais également l'idée que l'on pourrait agir dessus par des mesures qui accroîtraient les dépistages, explique le BMJ. Le commentaire, lui, cite d'autres études allant en ce sens, mais n'indique pas assez clairement que le consensus médical sur la question n'est pas pleinement tranché, précise la revue. Le corps médical est largement en faveur d'un dépistage généralisé du cancer du sein, mais des débats persistent sur son ampleur, notamment à cause du risque de surdiagnostiquer des tumeurs qui n'auraient jamais évolué en cancer dangereux. C'était « La revue BMJ se distancie d'une étude liant mortalité et non dépistage du cancer du sein », un texte de l'agence France-Presse paru le 25 novembre 2025 dans Le Devoir.
Statut d'élimination rougeole. Une perte embarrassante, entre guillemets, pour le Canada. Un texte de Eliette Lévy, publié le 4 décembre 2025 dans La Liberté. Citation. C'était attendu, dit le microbiologiste Philippe Lagacé-Vien, en réponse à cette nouvelle. Selon les experts, des petites éclosions de rougeole n'ont pas été rares au fil des ans depuis que la maladie a été officiellement considérée comme éliminée au Canada en 1998. Ces transmissions ont tendance à être de courte durée en raison d'un taux de vaccination élevé qui empêche la propagation généralisée du virus. Cependant, après environ 6 à 8 mois de transmission continue dans tout le pays, il est devenu clair aux yeux des experts que la situation d'élimination serait bientôt perdue. Citation. Le taux d'immunisation dans certaines régions du pays était insuffisant pour la protection complète de la communauté. C'était évident que ça prendrait plus que 12 mois à contrôler l'éclosion. Fin de citation. Il ajoute que, bien que la situation se soit progressivement améliorée, il est probable que le pays ne retrouve pas son statut d'élimination avant au moins 2 ou 3 ans, puisqu'il faut une élimination complète des cas pendant 12 mois consécutifs. Le nombre de cas de rougeole au Canada a lentement diminué depuis l'été, mais le Dr Lagacévien souligne que cela est normal pour un virus qui provoque une immunité aussi forte. Plus le nombre de personnes non vaccinées et infectées est élevé, plus l'immunisation collective est importante. Citation, la vraie différence, évidemment, c'est qu'un vaccin est entièrement sécuritaire comparé au virus lui-même qui provoque des maladies très sérieuses, des pneumonies, des admissions à l'hôpital et, dans certains cas, des séjours aux soins intensifs et même la mortalité. Fin de citation. La non-vaccination reste un problème. Selon les chiffres de la province, 87,2% des cas de rougeole au Manitoba concernaient des personnes qui n'avaient reçu aucune des 2 doses du vaccin. Tout au long de la pandémie et au cours des années qui ont suivi, le nombre de vaccinations contre la rougeole n'est pas revenu au taux antérieur. Et bien que les taux de vaccination aient augmenté au cours de l'année dernière, Philippe Lagacévien affirme qu'il reste difficile d'atteindre les personnes réticentes à être immunisées en raison du sentiment anti-vax qui grimpe depuis la COVID. Citation, c'est assez facile de retrouver les gens qui ont manqué leur immunisation, qu'on a perdu du système pendant la pandémie, mais on souffre quand même d'une certaine résistance aux immunisations et c'est ce groupe-là où c'est difficile parce que ça prend beaucoup d'efforts, d'éducation, de discussions avec des parents, des adultes qui ne sont pas immunisés. Fin de citation. Pour cette raison, il est possible que le nombre de cas recommence à augmenter, contredisant ainsi la tendance actuelle à la baisse. Plusieurs communautés n'ont encore enregistré aucun cas d'infection, mais leur faible taux de vaccination les rend vulnérables à une éventuelle épidémie. C'est la raison pour laquelle le Canada a connu plusieurs épidémies de rougeole le plus graves toutes les quelques années. Par exemple, en 2011, le Canada avait enregistré 752 cas, une épidémie qui s'était pratiquement résorbée l'année suivante. Citation, le virus infecte 95% des gens, ce qui cause une immunité très élevée dans la communauté par l'infection. Et puis là, ça disparaît pour plusieurs années, jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau groupe d'individus, les enfants, qui y sont encore susceptibles. Fin de citation. Une perte embarrassante pour le Canada. Selon Philippe Lagacévien, la perte du statut d'élimination vise principalement à inciter un pays à l'action à travers des pressions diplomatiques. La perte de ce statut est considérée comme un embarras national sur la scène internationale, surtout pour un pays avec un système de santé universel avancé et un programme de vaccination gratuit. Citation, non seulement on a perdu le statut, mais on a aussi fait perdre le statut des Amériques en entier, qui était la première région du monde à déclarer que la rougeole était éliminée, précise le docteur, bien qu'il est prévu que les États-Unis perderont eux aussi leur statut bientôt. Sur le plan politique, cela signifie que d'autres pays pourraient exiger que leurs voyageurs soient vaccinés contre la rougeole avant de se rendre au Canada, ce qui pourrait avoir des répercussions sur l'industrie du tourisme. Mais la pression internationale aura probablement peu d'effet. Les soins de santé sont une responsabilité provinciale, ce qui signifie que chacune d'entre elles aura sa propre façon de gérer les épidémies et les programmes de vaccination. Citation, le fédéral peut faire des déclarations, offrir un certain soutien financier pour la santé publique. Mais on voit plutôt des coupes au niveau fédéral que des financements en santé publique. Je crains que ce sera difficile d'avoir une approche unie. Fin de citation. Au Manitoba, le gouvernement a redoublé d'efforts pour encourager la vaccination et retracer les personnes infectées. Mais le docteur Lagacévien estime qu'il serait possible d'en faire davantage en matière d'accessibilité. Cela impliquerait garantir la distribution des vaccins dans toutes les pharmacies et cliniques et d'inciter les personnes qui n'ont reçu qu'une seule dose à se faire vacciner complètement. Citation. La grande majorité des gens qui croient qu'ils sont immunisés complètement ne le sont pas, souligne-t-il. Avoir un moyen simple d'accéder à son dossier vaccinal complet, cela a été le cas pendant la pandémie, pourrait aider les gens à vérifier leurs propres informations médicales et permettre aux institutions de santé publique d'envoyer à chacun des rappels de vaccination. Fin de citation. C'était Statut d'élimination rougeole, une perte embarrassante pour le Canada. Un texte de Eliette Lévy, publié le 4 décembre 2025 dans La Liberté.
Le don d'une vie pour coach, un texte de Caroline Touzin, paru le 2 janvier 2026 dans La Presse. Coach, ton sang est O négatif, le même que moi. Admettons que je voudrais voir si je suis compatible. On fait comment? Patrice Lortie n'y a pas réfléchi très longtemps. L'ancien joueur de football des Trappeurs du Collège Marie-Victorin a offert l'un de ses reins à son entraîneur de l'époque, et ce, même s'il n'avait pas gardé contact avec lui après son passage au sein de l'équipe au début des années 1980. Quand M. Lortie a revu Coach, dans une activité de retrouvailles organisée au même cégep en 2022, il a eu beaucoup de mal à le reconnaître. Il avait tellement maigri, il avait le teint gris, se souvient l'homme de 60 ans. C'était évident qu'il était malade. Ce soir-là, Jocelyn Beauvillier n'a pas voulu gâcher la fête. Souffrant d'insuffisance rénale à un stade avancé, l'enseignant d'éducation physique à la retraite a pris la parole pour raconter toutes sortes d'anecdotes de ses belles années de coaching sans dévoiler son état de santé précaire. Mais le mot s'est rapidement passé entre les gars. Coach avait besoin d'un rein. C'était urgent. 2 semaines après la fête, l'ancien joueur lui a envoyé sur Facebook le message privé qui a tout changé. Surpris, M. Beauvillier lui a demandé une preuve de son groupe sanguin. Après tout, les deux hommes ne s'étaient pas revus depuis un peu plus de 40 ans. « Il ne croyait pas que j'étais sérieux », s'amuse M. Lortie, rencontré en compagnie de l'ancien entraîneur de la Défense et de sa femme dans leur maison de Laval. « Il a fallu que je lui envoie une photo de ma carte de la Croix-Rouge avec mon groupe sanguin dessus. » Quelles sont les chances, en effet, se disent encore aujourd'hui les deux hommes devenus amis depuis la greffe. D'abord, M. Lortie n'avait pas prévu d'assister aux retrouvailles à son ancien cégep. « Il faut absolument que tu viennes. Je passe te prendre », lui a lancé un ancien coéquipier sans lui donner le choix, en allant le cueillir en voiture ce soir-là. Ensuite, seulement 7% des Québécois possèdent le groupe sanguin O négatif. Autant de signes qui ont motivé M. Lortie à plonger. Ses deux filles, devenues adultes, l'ont appuyé dans sa démarche. D'autres ont tenté de le décourager. Après tout, cet homme malade n'avait fait que passer dans son existence. C'est sous-estimer l'impact d'un entraîneur dévoué dans la vie d'un jeune. l'idée de laisser mon coach mourir sans rien faire était pour moi impensable, témoigne Patrice Lortie. Une attente longue et incertaine. Les différents tests pour se qualifier comme donneur se sont échelonnés sur plusieurs mois. En parallèle, M. Beauvillier, qui souffre de diabète, était aussi sur la liste d'attente de Transplant Québec, où l'attente est longue et incertaine. Il risquait de mourir avant que son tour arrive. En effet, pour les personnes en attente d'un rein, le délai moyen atteignait 470 jours en 2024, selon l'organisme qui coordonne les dons d'organes dans la province. Notons que cette mission sera confiée à Emma Québec le printemps prochain, en vertu d'une décision du gouvernement de François Legault, critiquée par de nombreux médecins et infirmières spécialisés dans les transplantations d'organes, ainsi que par l'organisme voué à disparaître lui-même. Sa femme, Anne Biron, faisait aussi les tests pour se qualifier pour un don croisé, puisqu'elle n'est pas du même groupe sanguin que lui. Le rein de Mme Biron serait allé à un autre patient et en échange, le donneur vivant de ce patient aurait donné un rein à son mari. Sa candidature a toutefois été rejetée. L'enseignant d'éducation physique à la retraite s'est astreint à une éprouvante dialyse péritonéale à la maison toutes les nuits durant un peu plus de 2 ans. Au moment de la greffe, au Centre universitaire de santé McGill, CUSUM, le 7 mars 2023, « il était minuit moins une », raconte la complice de M. Beauvillier des 20 dernières années. « Mon don, je ne l'ai pas juste fait pour coach. C'était aussi pour sa femme », ajoute M. Lortie, admiratif du dévouement de l'aidante naturelle. Le jour où son rein a été prélevé, quelques heures à peine après son réveil, M. Lortie, un soluté au bras, toujours en jaquette d'hôpital, s'est rendu au chevet de coach. L'organe greffé s'est mis à fonctionner immédiatement, lui a annoncé le chirurgien du receveur. Une excellente nouvelle, puisque cela peut parfois prendre quelques semaines. Dans l'intervalle, le patient reçoit des traitements de dialyse. Le donneur altruiste n'est pas indépendant de fortune. Il n'avait même pas d'assurance pour financer sa convalescence. Il a lancé une campagne de sociofinancement qui lui a rapporté quelque 13 000 $. Ce diplômé en finance et en commerce international, qui a entre autres travaillé dans les industries pharmaceutiques et aéronautiques, a pris plusieurs mois de convalescence. « Je me suis accordé une pause pour réfléchir au reste de ma vie, » dit-il. « En faisant mon don, j'ai réalisé à quel point la vie ne tient à pas grand-chose et qu'on peut faire une différence. » Le donneur, qui travaille aujourd'hui à temps partiel dans une entreprise de location de chalets, a quitté la ville pour ralentir et profiter de la nature des Laurentides. M. Beauvillier devra prendre un médicament anti-rejet aussi longtemps que le rein continuera à fonctionner. Il participe d'ailleurs à un traitement expérimental au CUSUM, sa façon de donner au suivant après avoir tant reçu. Sa conjointe veille à ce qu'il mange sainement, en plus de l'accompagner dans ses marches quotidiennes. « Dans le quartier, dit-elle, on me surnomme Forrest Gump, tellement on marche beaucoup. » La réalisation d'un rêve. Le couple vient d'ailleurs de réaliser un rêve l'automne dernier en parcourant le dernier segment du sentier de Compostelle, 124 km, en 6 jours. Les 2 premiers jours, on devait réaliser les plus grandes distances du voyage. Imaginez-vous donc qu'il a plu « tout le long », raconte en riant Mme Biron. Le couple, qui en a vu d'autres, ne s'est pas laissé décourager par une météo capricieuse. À la fin de chacune des journées de marche, Coach donnait des nouvelles à son donneur. « Sans Patrice, je serais mort », lâche-t-il, soudainement très émotif. Au total, sa conjointe et lui ont 7 petits-enfants. Ils se sont rencontrés après avoir fondé leurs familles respectives. La petite fille de M. Beauvilliers, Juliette, est née 2 semaines après la transplantation du rein. Disons qu'on a un lien particulier, décrit le grand-père greffé. Je lui ai fait la promesse d'être à son bal de finissant dans 16 ans. Je compte bien me rendre jusque-là, dit celui qui aura 86 ans au moment de la célébration de fin d'études. C'était Le don d'une vie pour Coach, un texte de Caroline Touzin, paru le 2 janvier 2026, dans la presse.
Trop beau pour être vrai, le modèle d'éducation à l'enfance norvégien. Un texte de Zachary Goudreau, paru le 22 octobre 2025 dans Le Devoir. En Norvège, tous les parents qui le désirent peuvent trouver une place pour leur enfant dans un service éducatif à l'enfance à faible coût et répondant à une série de critères de qualité. Est-il réaliste d'aspirer à atteindre, au Québec, ce modèle qui semble trop beau pour être vrai? Un chercheur norvégien de passage dans la province croit que oui. C'est devant des centaines de personnes pendues à ses lèvres qu'Henrik Daas Eriksen, professeur au Centre de recherche sur l'égalité en éducation, CREATE, et au département des besoins particuliers en éducation de l'Université d'Oslo, a tenu une conférence mercredi le 23 octobre 2025 à Trois-Rivières. Le chercheur s'était rendu dans la belle province à l'invitation de l'Association québécoise des centres de la petite enfance, AQCPE, qui a organisé une série de conférences cette semaine dans le cadre du Grand Rendez-vous de la petite enfance. Il faut dire qu'au moment où un manque de CPE continue de se faire sentir dans plusieurs régions du Québec, particulièrement dans les milieux défavorisés de la province, le modèle norvégien a de quoi faire rêver. Dans ce riche pays d'Europe, dont le produit intérieur par habitant s'élève à 140 000 $ canadiens, la part des enfants qui ont accès à une place dans un service éducatif à l'enfance subventionné et encadré par l'État connaît une augmentation constante depuis 1970, au point où, aujourd'hui, tous les enfants du pays peuvent avoir accès à ce service si leurs parents le souhaitent. Les frais qui leur sont imposés équivalent à 170 $ par mois par enfant. Le chemin à parcourir. Pendant ce temps, au Québec, un sondage mené en ligne en février dernier auprès de 1370 parents pour le compte de l'organisme Ma place au travail montre l'étendue du chemin qu'il reste à parcourir. Ça nous a permis de mettre des chiffres sur les impacts financiers, psychologiques et professionnels pour les parents, du manque de place en service de garde au Québec, a expliqué au Devoir la coordonnatrice à la mobilisation de l'organisme, Gabrielle Champagne, qui a donné une conférence dans le cadre de ce congrès. Ce coup de sonde fait ainsi état d'une proportion de 75% de répondants qui ont connu un intervalle, de plusieurs mois dans certains cas, entre le moment où ils auraient souhaité que leur enfant puisse entrer en garderie et celui où il a pu intégrer une installation. Dans ce contexte, ce sont également les 3/4 des participants à ce sondage qui ont mentionné avoir subi des pertes professionnelles en lien avec le manque de place en garderie, comme une réduction de leurs heures de travail. Les parents concernés, et en particulier les femmes, ont également subi des contre-coups importants sur leur charge mentale et leur niveau de détresse psychologique. Dans ce contexte, le modèle norvégien de service d'éducation à la petite enfance peut paraître d'emblée trop beau pour être vrai, convient Henrik Daas Eriksen. Or, même si la province n'a pas une économie comparable à celle de la Norvège, le Québec est riche, lance en entrevue au Devoir le professeur, qui associe les lacunes actuelles de notre réseau de garderies à un manque d'intérêt public à soutenir l'éducation préscolaire. Pourtant, l'universalisation de l'accès aux services de garde pourrait contribuer à faire rouler l'économie du Québec en facilitant la présence des parents sur le marché du travail, en particulier celle des mères de famille. Et elle a ce bénéfice supplémentaire d'offrir une vie heureuse pour les enfants, en plus de rendre la vie de votre population beaucoup plus facile, tant pour les parents que les grands-parents, ajoute le professeur. Ce dernier a d'ailleurs participé à des recherches qui ont documenté les répercussions positives des services d'éducation préscolaire de la Norvège sur le développement du langage et la réussite scolaire des jeunes, en particulier de ceux provenant de milieux défavorisés. On a été incapable, sur 15 ans de recherche, de trouver des effets négatifs de ce système, a ainsi lancé le professeur pendant sa conférence, qu'a suivi avec intérêt la directrice générale aux affaires publiques et gouvernementales de l'AQCPE, Geneviève Blanchard. Je pense que c'est réaliste d'atteindre ce modèle-là, a lancé cette dernière lorsque rencontrée par Le Devoir mercredi. Est-ce qu'on en est très loin? Bien, il y a des choses où ils sont plus avancés que nous. Il y a d'autres choses où ils sont moins avancés qu'au Québec, a-t-elle ajouté, en soulignant le manque de services adaptés aux enfants à besoins particuliers dans les garderies de la Norvège. Élargir l'accès à des services de garde de qualité pour atteindre le modèle norvégien nécessiterait cependant non seulement un investissement colossal de l'État pour créer plus de places en CPE, mais aussi des mesures ciblées pour s'attaquer plus efficacement à la pénurie d'éducatrices dans le réseau, a souligné Mme Blanchard. Je crois qu'on doit travailler davantage à démontrer que c'est une profession en soi, que ce n'est pas juste parce qu'on aime les enfants ou que c'est une vocation qu'on va dans ce milieu-là, mais parce que c'est une profession qui a une incidence sur les tout-petits, souligne-t-elle. Ce qui doit passer notamment par une hausse des salaires accordés aux éducatrices, estime Henrik Dahl-Zarikson. Actuellement, le salaire d'entrée pour une éducatrice qualifiée est de $25.15 l'heure. C'était « Trop beau pour être vrai, le modèle d'éducation à l'enfance norvégien », un texte de Zachary Goudreau, paru le 22 octobre 2025 dans Le Devoir.